On en vient, comme promis, à ce qui est l'une des informations de la journée, l'arrivée des premières morsures de l'hiver en Ukraine, première neige, les températures qui sont en train, vous voyez ces images, les températures qui sont en train de plonger, températures négatives désormais du côté de Kiev notamment, ça va aller, on va aller jusqu'à moins 10 degrés dans les jours qui viennent. On va voir avec vous, Général, ce que ça change d'un point de vue opérationnel. On verra ça dans une seconde. D'abord, on va être à Kiev, on va retrouver nos envoyés spéciaux, notamment Jérémy Père, qui nous raconte comment justement les habitants vivent désormais avec cette neige, ces températures, avec une électricité et un chauffage qui manquent. Écoutez.
Les premières neiges sont tombées cette nuit ici à Kiev et les températures sont désormais négatives et elles vont le rester dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Inquiétude pour les habitants de la capitale ukrainienne, notamment dans certains quartiers qui n'ont l'électricité et l'eau que de manière continue depuis plusieurs jours, depuis les frappes russes qui ont touché une partie des infrastructures électriques et gazières dans la capitale. C'est la même chose dans l'est du pays. Là aussi, il neige et là aussi, il y a des villes qui n'ont ni eau ni électricité. Ni gaz depuis le début de la guerre. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'inquiétudes, surtout pour les autorités de Kiev qui ont peur de nouvelles frappes qui pourraient plonger des millions d'Ukrainiens sans chauffage, comme ça a été le cas pendant plusieurs heures lors des dernières frappes il y a 48 heures qui ont touché l'ensemble du pays. Les Ukrainiens sont donc très attentifs à ce qui va se passer dans les prochains jours parce que la situation pourrait devenir catastrophique, disent les autorités.
On a un cocktail qui est terrible pour les Ukrainiens, Général Desportes. À la fois ce froid, cette neige qui arrive, et en même temps, les Russes qui en rajoutent en termes de bombardement. On a beaucoup dit ces dernières semaines qu'ils visaient les infrastructures électriques. Aujourd'hui, visiblement, ce qui était ciblé, ce sont les infrastructures gazières aussi. Plus d'électricité, plus de gaz pour le chauffage, etc. Pour les civils, dans un premier temps, ça va être très compliqué. L'hiver va être extrêmement rude.
C'est-à-dire que la stratégie de Poutine, on le sait bien, il est bloqué au niveau tactique, donc il réagit au niveau stratégique. On est bien dans l'application stricte de sa stratégie, qui est de rendre la vie absolument impossible au peuple ukrainien, de manière, comme je le disais tout à l'heure, à faire s'effondrer la volonté du peuple ukrainien. Et effectivement, ce que Poutine attendait, c'est la neige. Je crois que lui-même est extrêmement heureux de l'avoir tombée. Il est clair que l'hiver sera infiniment plus dur pour les Ukrainiens que pour les Russes qui, eux, n'auront pas ces problèmes de chauffage au même niveau. Donc, on a eu d'abord les missiles, ensuite on a la neige. Tout ça, finalement, correspond parfaitement à la stratégie dont Poutine attend qu'elle affaiblisse profondément la défense ukrainienne.
Et d'un point de vue militaire, vous disiez tout à l'heure que l'hiver n'arrêtera pas la guerre.
Alors, il y a du plus et du moins, si vous voulez. Ce qui arrête vraiment la guerre et ce qui l'a arrêté, ce qui a arrêté les armées de Napoléon et les armées d'Hitler, c'est pas vraiment la neige, c'est, je parle sous votre contrôle, mais c'est la Rasputitsa. C'est le moment où la terre est tellement meuble que les chars ne peuvent plus avancer. Là, on est en train d'en sortir. Parce que quand la boue disparaît, quand la guerre gèle, alors les chars peuvent recommencer. Donc, la guerre de mouvement peut recommencer tant qu'il n'y a pas trop de neige, alors qu'elle s'est arrêtée là. D'ailleurs, on le voit bien, il n'y a plus de guerre de mouvement depuis un mois, pratiquement. Mais en revanche, évidemment, les souffrances des soldats sont infiniment plus fortes pendant la guerre, si vous voulez. Mais historiquement, la guerre n'a pas arrêté. La guerre, je citais tout à l'heure Stalingrad, mais là, cette bataille, une des batailles les plus connues de la Grande Guerre patriotique, c'est bien l'hiver 42-43, et elle a continué pendant... l'hiver ne l'a pas arrêté. Et puis, on connaît la bataille du Chaudron en Corée, où la guerre a continué. Donc, je ne pense pas que l'hiver rend la guerre infiniment plus dure, parce que vivre dans les tranchées, dans les trous, etc., ça devient extrêmement dur. Donc la mortalité va augmenter, mais l'hiver, à partir du moment où la neige est dure et où il n'y en a pas trop, ça ne va pas arrêter. Au contraire, ça va peut-être permettre aux Ukrainiens de relancer la guerre de mouvement dont on a bien compris qu'elle s'était arrêtée depuis environ un mois.
Sergueï.
Ça peut compliquer. Déjà, techniquement, ça complique parce que c'est blanc. Donc tout ce qui n'est pas blanc, ça se voit plus sur du blanc. En plus, il y a des feuilles qui disparaissent pendant l'hiver, donc vous avez du mal à vous cacher. Donc ça complique la guerre. En revanche, les Ukrainiens sont plus prêts pour cette guerre que les Russes, parce que les Russes, on les a vus. En fait, Poutine nous a annoncé qu'avec la mobilisation, il chassait aussi le général qui était chargé de la logistique du ministère de la Défense. Et on a vu, ils étaient pas bien équipés, ils portaient pas les vêtements chauds. Les Ukrainiens sont équipés avec les équipements de Canadiens et d'autres pays avec
Américains ont envoyé des tonnes d'équipements pour lutter contre le
froid. Il y a ça. Et j'ai eu une conversation hier avec un militaire ukrainien. Il disait en fait nous on a des générateurs, on a l'habitude en fait de vivre dans le froid, donc ils résistent quand même assez bien. Pour la population civile c'est différent. La population civile en fait ça dépend où elle est. C'est surtout les grandes villes qui vont souffrir. Parce que dans les grandes villes, vous avez les bars. Dans les bars, vous ne pouvez pas faire du feu. Vous n'avez pas de bois.
Les bars d'immeubles.
Les bars d'immeubles, en fait.
Ouais,
c'est ça.
Bars,
Donc, en fait, c'est les grandes villes comme Kiev, comme Kharkiv, etc. Il y a des villes de la mer Noire qui souffriront un peu moins, puisque le climat est plus clément. Odessa, Mykolaïv, Kherson, c'est un peu mieux. Mais surtout, beaucoup d'Ukrainiens possèdent des dachas, possèdent des maisons secondaires. Et donc, dans la campagne, finalement, on se débrouille quand même assez bien, y compris pendant l'hiver.
Antonin,
oui.
L'équipement des soldats russes.
Oui, c'est parce que ça fait plusieurs semaines qu'on voit passer des images, effectivement, de cette armée en guenilles, qui n'a pas d'équipement, et les vidéos sont quotidiennes. Il y en a une là qui nous est parvenue aujourd'hui. Vous allez le voir, on voit des hommes qui vont au combat avec des casques de chantier, et ils ironisent sur leur sort, sur leur triste sort dans cette vidéo.
Voici mon groupe d'assaut qui se prépare pour une mission. Voilà avec quoi nous devons mener l'assaut. Avec ces casques de construction. Réveillez-vous, nous n'avons pas d'équipement. Tout ce que nous possédons, nous l'avons payé nous-mêmes. Ils nous ont rien donné.
Alors, il y a des casques de chantier, et puis il y a aussi des casques, vous allez le voir encore sur ces images, voilà, vous voyez, un soldat qui montre un casque qui colmate avec des bouts de tissu, des mouchoirs, il passe ses doigts à travers le casque, et puis alors il filme, ensuite on va le voir, il filme tout un tas de matériel qui ont été envoyés par les localités, les villes russes qui envoient du matériel pour aider les soldats. Alors, vous avez des rouleaux de câbles électriques, vous avez des cisailles, vous avez des matériaux, en fait, que vous pouvez acheter à la quincaillerie du coin. Et ce soldat est désemparé parce qu'il dit c'est bien généreux, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de tout ça? C'est pas avec le matériel de la quincaillerie du coin avec lequel je vais aller à la guerre. Alors vous avez cette réalité-là qui est très forte et qui est très relayée par les soldats russes, aussi par leurs épouses et par leurs mères. Et puis vous avez le discours inverse qui dit mais de quoi se plaignent ces militaires? Regardez le soldat Soloviev en service commandé. De quoi vous plaignez-vous, braves gens? Regardez le matériel, il est là et il est très bon.
Vous pouvez le laisser tomber ou ne pas le laisser tomber. Quoi que vous lui fassiez, vous ne pouvez pas le casser facilement. Les lunettes tactiques sont super, tout est là. Tout est là. Regardez, c'est classe, hein. Vous avez un sac de couchage, c'est juste ici. Vous avez aussi des super bottes supplémentaires. Mais ils n'aiment pas ça. Ils disent que rien ne va et que ce n'est pas bien. Et que ce n'est pas bien ici non plus.
Voilà un matériel.
Soldats qui se font engueuler.
Voilà un matériel que probablement la plupart de ces soldats en guenilles ne verront jamais. Et ce qui est vrai, c'est que ces deux récits commencent à s'opposer. Et il y a quand même des relais en Russie, notamment les mères et les femmes de soldats qui publiquement aujourd'hui prennent de plus en plus la parole. Et puis des soldats qui envoient des lettres pour dire je préfère déserter que de rester dans cette situation-là.
Général, quand vous voyez ces images-là.
Bon, alors moi d'abord, je ne connais pas la proportion des uns et des autres. Et nul ici ne la connaît, parce qu'on a un certain nombre de vidéos que je reçois complètement. Je ne vais pas jouer certains hommes politiques un peu passés, qui dénient toutes les choses. Mais on ne sait pas. Honnêtement, on voit des vidéos comme ça, qu'est-ce que c'est? On a vu à un moment donné, il y a deux mois, je ne sais pas si vous vous rappelez, une Kalachnikov complètement rayée, on nous a dit c'est la Kalachnikov à laquelle on va se battre. On en a vu une. Et donc je crois, je ne sais pas si vous avez des pourcentages, mais qui est bien équipé, qui ne l'est pas? Moi, je ne le sais pas, et je ne sais pas qui. Je ne suis pas sûr qu'il faille se faire une opinion sur une vidéo.
Non, vous avez raison, mais quand vous voyez que Soloviev, lui-même, à la télé, vient dire de quoi se plaignent les soldats, si là, il y a une alarme qui sonne chez lui, c'est qu'il y a peut-être un sujet quand même.
Non, mais il y a probablement un sujet, mais quelle est la proportion?
Non, bien sûr, c'est impossible à dire.
La proportion est très grande, parce que pour les mobiliser, dans toutes les régions, vous avez même la liste. On donnait la liste avec les prix, combien il fallait que chaque soldat investissait pour partir bien équipé sur le front. Donc là, c'est pas juste.
C'est pas juste une vidéo. C'est possible, hein. mais gardons-nous de tirer des enseignements de vidéos.
On a vu aussi à Kherson, par exemple, dans des bâtiments qui avaient été évacués par les soldats russes, des messages laissés par les soldats russes écrits sur le mur, disant nous sommes désolés d'avoir mené cette guerre contre vous et qui insulte Vladimir Poutine en l'écrivant sur le mur avant de battre en
général. Ce qui est sûr, quoi qu'il arrive, c'est que les Russes sont très mauvais, ils l'ont montré, en logistique. Et que donc, il y a forcément des répercussions et que si même les premiers, autant la logistique ukrainienne qui est pensée et organisée par avec le soutien des Américains va continuer en permanence à apporter des vêtements, des équipements, autant la logistique russe ne sera pas plus capable d'apporter des bottes qu'elle n'a été capable d'apporter des obus. Donc, il y aura un différentiel important au bout d'un moment entre les deux armées de ce point de vue-là.
Vera Gayeva, une chose, en 30 secondes, ce que disait Antonin, ces messages-là, ils sont relayés en Russie par les femmes, les épouses, par les sœurs, les mères, etc. Il arrive ce message-là quand même ?
Ce message-là commence à circuler beaucoup plus qu'avant, parce qu'il y a beaucoup plus de familles qui sont touchées directement par cette guerre. Donc, elles ont des témoignages presque directs, soit de leurs amis, soit de leurs frères, soit de leurs fils, les enfants. Donc, ça commence à circuler. Effectivement, ça rend le peuple russe assez, je dirais, perplexe, parce que l'armée, c'était presque le seul sujet qui rendait les peuples russes fiers. Et tous les sondages montraient ça, que la seule chose que les Russes admiraient en Russie, c'était l'armée. Et maintenant, pendant la guerre, ils ont vu que quand même l'état de l'armée russe était très pitoyable, ce qui est assez logique pour le régime que Poutine a établi en Russie, parce que c'est un régime qui est basé sur la corruption. Et la corruption était aussi dans l'armée. Maintenant, on le voit très, très bien.
Merci à tous les six. Merci d'avoir été avec moi ce soir en direct sur BFM TV.